c'est bon pour la santé.
Bonjour et bienvenue à C'est bon pour la santé. Ici Camille Tchai, votre animatrice, en compagnie de mon co-animateur François Barbel. Bonjour François.
Bonjour Camille.
Alors, comme d'habitude, ensemble, nous abordons différents sujets variés et très intéressants, et ce, de façon hebdomadaire. En rafale, aujourd'hui, nos intervenantes seront Annick Filion, qui nous a mené un vox pop qui porte sur l'obésité. Myriam Daguzan-Bernier, elle, nous livre un coup de gueule qui s'intitule « L'art faire du bien ». Et Catherine Bourderon viendra nous faire sa chronique livre. Alors, on commence cette émission, et oui, toujours en beauté, avec un sujet qui touche la réalité d'une grande partie de la population, et oui, l'obésité. D'ailleurs, nous avons avec nous en studio Dr Maurice Larocque, qui vient nous parler de son livre « L'obésité n'est pas une maladie » des éditions Monde Différent. Et en seconde partie, on part du livre « Dans le ventre ». Donc, ce sont des histoires d'accouchement. C'est en fait un collectif qui est sous la direction d'Elsa Pépin, des éditions XYZ de la collection Quai numéro 5. Alors, bienvenue à vous tous et merci de passer cette heure avec nous. Et pourquoi vous nous écoutez aujourd'hui? Eh oui, parce que ce qu'on vous présente, c'est bon pour la santé. Docteur Maurice Larocque, bienvenue en studio.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Merci à vous.
Bonjour, docteur Maurice Larocque.
Bonjour, François.
Voilà 40 ans que vous apportez des soins aux patients qui sont pris dans des problèmes de surpoids et d'obésité. Vous êtes médecin et ne proposez pas de méthode miracle ni de produit miracle pour perdre du poids. Par contre, vous responsabilisez les patients qui viennent vous consulter pour qu'ils se prennent en charge et fassent ce qu'il faut pour se sentir mieux. Ce livre nous donne quelques clés de votre attitude plus que de traitement qui permet de soulager ceux qui souffrent de ce surpoids. Votre livre « L'obésité n'est pas une maladie » est édité chez Un Monde Différent. Voilà. Alors, pourquoi ce titre « L'obésité n'est pas une maladie » déjà?
Tout simplement parce que ça n'en est pas une. c'est un comportement que l'humain adopte à un moment donné. Comme d'autres vont adopter, par exemple, de gérer leur stress, leurs émotions par l'alcool, par les drogues, par des comportements d'autres addictions, le jeu, l'argent, la dépense, etc. Alors, jusqu'en 1998, ce n'était pas considéré, l'obésité n'était pas considérée comme une maladie. Et en 1998, l'Organisation mondiale de la santé a écrit un document pour dire l'obésité, ben, c'est une maladie.
C'est ça.
Mais le but de l'Organisation mondiale de la santé, c'était de sensibiliser
la population
et les médecins et les chercheurs à faire plus d'études sur l'obésité, sur les personnes qui en souffrent, de sorte à devenir meilleur, d'être capable de les aider davantage.
Qui sont les obèses? Comment est-ce qu'on peut calculer ou dire qu'on est obèse ou pas?
Ça va avec ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est un indice qui n'est pas extraordinaire, mais qui est le meilleur qu'on a pour...
C'est juste une idée, en fait, ça.
C'est une équation entre le poids et
la surface corporelle, en fait.
Hein.
La taille au carré.
C'est ça, voilà. Ouais. Et ça donne un chiffre. Mais qui est, par exemple, pour les noirs, qui est pour les jaunes non plus, qui n'est pas du tout fiable et qui ne tient pas compte de la musculature non plus de la personne, ni de son âge, ni de son ossature. Alors, c'est le meilleur qu'on a pour faire des recherches et comparer les mêmes choses et parler des mêmes choses. Alors,
c'est une échelle comme une autre, mais c'est juste une échelle qui permet de discuter à propos de poids et d'obésité.
Tout à fait. Et de s'entendre d'un chercheur à l'autre à travers le monde pour dire ben, l'indice de masse corporelle de lui, c'est normalement un indice, c'est en bas de 25, entre 18 et 25. Ouais. Et en haut de 25 à 30, ben, c'est un surpoids.
Je voudrais juste dire que le modèle pour les petites filles qui sont les poupées Barbie ont un indice de masse corporelle qui est inférieur à celui de l'insuffisance pondérale qui est de 18,5. Il est de 17, si on le rapporte. Hein. C'est quand même ce qui explique beaucoup de choses dans l'anorexie chez les filles, chez les jeunes filles.
L'anorexie, c'est un autre démarche aussi qui s'approche plus de la maladie mentale.
Tout à fait.
J'ai eu déjà à rencontrer et à suivre... quelques personnes anorexiques, des jeunes femmes pour la plupart, c'est très difficile. Et c'est souvent des femmes très brillantes intellectuellement, etc., mais qui, à un moment donné, il y a une faille, je vous dis psychiatrique, là, je veux dire, qui fait qu'à un moment donné, elles ont une obsession du poids. Et souvent, il y a un homme impressionnant qui en meurt. Je pense que c'est près du tiers. Un autre tiers qui finit par à peu près contrôler, puis peut-être un tiers qui finit par s'en sortir.
Et l'obésité est-elle inscrite dans les gènes?
Non.
Pas du tout?
Pour moi, non. Beaucoup le disent.
Il y a une école qui dit que l'obésité chez les enfants est inscrite dans les gènes.
À part de quelques maladies où il y a beaucoup de déficiences mentales associées, etc. Donc, il y a quelques cas qu'on sait que c'est génétique.
Et, mais vous pensez que non?
Mais dans l'ensemble, non.
C'est quelque chose qui se... Est-ce qu'on peut dire ça? Qui se contrôle? C'est propre à chacun?
Tout à fait. Pour moi, c'est tout à fait. D'où ce que vous disiez au départ, en parlant de la responsabilisation que la personne va prendre dans sa vie, la responsabilité. Moi, j'ai été particulièrement intéressé par la génétique, mais dans le livre, il y a un chapitre qui dit « Les gènes ne sont pas le destin ». Et il y a une nouvelle science depuis le début des années 2000 qui est l'épigénétique.
Oui.
Et l'épigénétique, dans le fond, parce qu'on pensait que si génétiquement je suis programmé, je ne peux pas rien y faire. Alors, si je pourrais être obèse, pourquoi qu'il y aurait plus d'obèses au Québec, au Canada, qu'en France ou que dans d'autres pays? Ça ne fait pas son sens. Le rôle de l'environnement, et c'est ce qui est nouveau depuis 2000, parce qu'on a identifié tout le génome à partir de 2000, puis on s'est rendu compte qu'il n'y a pas assez de gènes pour expliquer les comportements humains, et que ces gènes-là sont modifiables en fonction de l'environnement. Ce qu'on mange, ce qu'on fait, l'activité physique, ce qu'on respire, et aussi, ce qui est tout à fait nouveau, les émotions et le stress.
Alors justement, quelle est la première cause de l'obésité, d'abord, d'après vous?
C'est multifactoriel. Il y a la qualité de la nourriture. D'abord, la quantité, c'est certain. Ça, c'est toujours vrai, même s'il y en a dit que des calories ne comptent pas, c'est faux.
Ça, c'est sûr.
C'est toujours vrai. Le deuxième, c'est le sucre. Dans nos sociétés modernes d'après-guerre et dans les derniers 30 ans, particulièrement même depuis que le sucre de glucose, fructose, de maïs a été introduit au début des années 80.
Ça n'a pas fait du bien, ça.
Ça a été dramatique.
C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe parce qu'on a vu une explosion du syndrome métabolique, le foie gras, la résistance à l'insuline.
Le syndrome métabolique, c'est quand même tout ce qu'on trouve avec la pléthore de nourriture et l'obésité.
L'hypertension artérielle, les triglycérides, le cholestérol élevé dans le sang, le diabète et le durcissement des artères, l'athérosclérose, ça a été décrit comme étant galopant.
Finalement, donc l'obésité n'est pas une maladie, mais elle en attire énormément.
Tout à fait. C'est la maladie, je ne veux pas dire que c'est une maladie, mais c'est la condition actuellement qui tue le plus de monde. Ça dépasse la cigarette, là, dans ces années-ci, là, ça dépasse la cigarette dans le cancer. Le cancer, on est de plus en plus maintenant le facteur de risque. L'obésité, c'est 40%. Alors, et de plusieurs types de cancers différents. Alors, ce qui était peu connu encore il y a longtemps.
Quelques temps. Mais écoutez, je vous propose qu'on écoute le Vox Pop qui porte justement sur l'obésité. On aura la chance d'en rediscuter tout de suite après.
Son titre est Le Poids.
Oui, tout à fait.
Madame Ali.
Robert.
Jane.
Jenna.
Angeline.
Francesca.
Clarisse.
Carmen.
Je m'appelle Jeanne.
Geneviève.
Émile.
Adèle.
Thomas.
Maëva.
Marie.
Alexandra.
Félix.
Inuel.
Je m'appelle Dan.
Marianne.
Patrick.
Coralie.
Vicente.
Amy Négule.
Anna.
À l'adolescence, avec la croissance, le corps change, tout ça, est-ce que l'apparence physique ou ton poids, c'est quelque chose qui te préoccupe?
Ouais, je suis bien, ça me dérange pas tant que ça.
Nazim, 12 ans, parce que je sais que c'est un processus naturel et tout ça.
Ça me préoccupe un petit peu.
Mathia, 13 ans. C'est pas mon affaire que je me concentre le plus sur, à cause que comme il y a d'autres choses qui sont plus concernantes que l'apparence physique et tout ça. La santé, c'est très important.
Oui, ça me préoccupait. Yasmine, 16 ans. Parce que j'étais un peu en surpoids avant, fait que j'ai fait du sport pour maigrir un peu. Puis maintenant, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Puis ouais, le fait d'être en santé, c'est ça qui me motive, genre, à aimer mon corps.
Pas vraiment. J'ai pas vraiment peur de mon apparence physique. Mon nom, c'est William, puis j'ai 13 ans. À part les boutons, sinon, pas vraiment quelque chose qui me fait peur, là.
Ben c'est sûr que je suis pas le gars le plus grand puis le plus gros de tout le monde, mais Sacha, 14 ans. Je veux rester comme je suis. Je me sens un peu unique, sur ma grandeur, mais ça me préoccupe pas tant, mais j'aime ça, j'aimerais grandir. Là, mais...
J'essaie de perdre du poids, puis je le fais vraiment pour moi. Mathis, puis j'ai 15 ans. Je reçois de la pression, mais je fais pas vraiment attention. Ben, entre amis, on fait des blagues sur le physique des autres. Là. Moi, c'est quand même assez apparent. En fait. C'est plus pour ça qu'on fait des blagues là-dessus, mais honnêtement, ça me dérange vraiment pas, puis c'est pas si pire que ça.
Mais ça vient d'où, la pression?
C'est mes parents aussi qui trouvent un peu que je passe beaucoup de temps à jouer sur ma console. Je préférais que je sois dehors à jouer avec mes amis. Puis ils disent si tu continues comme ça, tu vas être gros. Je dis OK, c'est bon.
Ça te fait quoi, ça, quand t'entends ça?
J'entends tellement souvent que je fais même plus attention.
Je pense que cette pression-là, parfois, de devoir retourner dans le moule si on sort un petit peu. Marine, et j'ai 17 ans. Mais je pense pas que c'est quelque chose d'impératif dans ma vie, non.
Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te chicoter ou moins aimer si tu prends du poids ou est-ce que tu fais attention?
Moi, ça me préoccuperait. Je le ferais juste plus de sport et plus attention à ce que je mange. Mais ce serait pas la plus grande chose dans ma vie non plus. Ce serait pas trop important.
Quand je vois du monde bien enfant avec des muscles et tout, ben c'est sûr que ça m'excite un peu plus à qui j'aimerais ça être comme eux autres. Mes parents disent « stresse pas avec ça, reste comme t'es », puis si ça change, ça change.
Si ça change pas, est-ce que t'es bien dans ton corps?
Ah oui, vraiment, moi c'est pas une chose qui m'importe.
Des fois, il y a de la pression des amis, de la famille, de l'entourage, Internet, des coachs de sport pour modifier un peu notre physique, faire attention. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'influence?
Je dirais que ma source d'influence principale, c'est probablement la télévision. Victor, 20 ans. Dans les émissions, on se bâtit des modèles. Dans les films aussi, on a souvent, les personnages représentent des espèces d'idéaux humains. Ou s'ils le sont pas, ça fait justement partie de leur identité de personnage. Donc, je dirais que c'est pas mal ça, ma principale influence par rapport à l'apparence physique.
C'est des personnes, des influenceurs, par exemple, sur les réseaux sociaux, que tout le monde veut être comme eux. Ou, par exemple, quelqu'un dit « Ah, ben quelqu'un de populaire va dire « Moi, j'aime les légumineuses. » Fait que là, tout le monde va commencer à manger des légumineuses, des trucs comme ça.
Puis toi, ça va t'influencer? Est-ce que tu vas vouloir suivre des modèles?
Pas de temps. Ben, je me sens un peu contrainte de le faire, mais je le fais pas tout le temps.
Je me dis que ça vaut pas la peine vraiment de se comparer avec les bodybuilders ou les stars d'Hollywood parce que ils ont des entraîneurs privés. Je veux dire, c'est un peu comme essayer de se comparer à un autre niveau.
Non, parce que si tu ressembles à quelqu'un, t'es plus vraiment unique. Fait que
Lina, 13 ans.
Ça change le but des êtres humains, on doit être tous uniques, sinon genre, si t'es le clone de quelqu'un, ben c'est pas très cool, je trouve. Alors, c'est mieux être différente des autres.
Qu'est-ce que tu vas faire pour rester, qu'est-ce que tu fais pour rester en santé, en forme, pour être bien dans ton corps?
Ben déjà, tout part dans l'esprit, donc Ellie et j'ai 14 ans. Donc, dès qu'on se sent bien, ben on va être bien, ben aussi dans l'alimentation. Mais comme on est dans une école assez stricte, ben j'ai pas vraiment le temps de faire beaucoup d'activités physiques. Parce que le corps est aussi important que l'esprit.
C'est bon! C'est
Mensana incorporé!
Mensana incorporé sano. Mensana incorporé sano.
Un corps sain dans un esprit sain.
Non!
Ben, ça revient même!
Non, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Donc, nous venons d'écouter le vox pop d'Annick Fillion, dont le titre était « Poids ». À l'écoute de tous ces enfants, là, on s'aperçoit qu'il y a une pression sociale, finalement. Une pression sociale importante sur l'apparence physique. Il y a des coachs, il y a des tas de choses comme ça.
Oui, mais je pense que l'influence la plus significative vient des médias sociaux. Et ceux qu'on a eus comme... qui ont témoigné, je ne suis pas certain qu'ils représentent la grande majorité des jeunes. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai développé des logiciels, des questionnaires informatisés pour les adultes, que j'ai appelé questionnaire poids mental, pour déterminer les causes psychologiques et les causes physiologiques qui peuvent être responsables du poids. Mais je l'ai fait aussi pour les jeunes. Pour les ados de 12 à 18 ans. Et on a fait des sondages, entre autres, dans des écoles en France et dans des écoles au Québec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, finalement, que les profils de ces jeunes-là n'est pas tellement différent des adultes. Alors que souvent, comme adulte, on dit oh, les enfants sont tous agressifs, sont tous violents. C'est pas vrai du tout. Il y en a des agressifs, il y en a des violents, mais il y en a pas plus que chez les adultes. C'est assez.
C'est intéressant.
Oui. Alors, l'image corporelle, il parlait de leur image corporelle, oui. C'est la même chose. Ceux qu'on a dans le Vox Pop, ils semblent relativement bien avec leur corps. Beaucoup ne le sont pas. On parlait des anorexiques tantôt. Et il y a beaucoup de jeunes obèses qui ne le sont pas non plus. Mais ces gens-là, par exemple, ils n'iront pas répondre à un Vox Pop.
Ah, voilà.
Parce que,
c'est ça.
C'est, par exemple, j'étais au Salon du livre de Québec il y a deux semaines. Et quand les gens voient, par exemple, l'obésité n'est pas une maladie, le livre, les gens qui ont un problème de poids, ils détournent le regard et ils font une grande marche loin pour être certains de ne pas être interpellés. Alors, finalement, nos jeunes ne sont pas pire, ils sont pas mieux que les adultes. C'est souvent les parents qui s'en font beaucoup, là, mais...
Plus, ouais.
Quel est le regard, justement, qu'on pose sur les obèses?
Il y a énorme...
Enfin, du moins, qui est posé par la société sur les obèses.
Il est énorme. Ouais. Et ça commence par les médecins.
Ouais.
J'ai écrit un topo il y a quelques années dans un magazine pour médecins. Et c'était « Pourquoi les médecins n'aiment pas les gros? » Et des chercheurs importants internationaux, Dr. Brownell, et ont sorti au jour, les médecins ont beaucoup de biais envers les gens qui ont un problème de poids. Et souvent, par malheureusement, ignorance du comportement humain, on va dire, mais c'est plutôt des gens passifs. Ben oui, il y en a, mais il y a autant de gens agressifs. Tu sais, dans tous les inventaires que j'ai faits, les recherches que je publie, puis je reçois, il y en a autant qui sont agressifs, puis il y en a beaucoup qui sont les deux, passifs, agressifs, ils se promènent. Alors, c'est souvent et aussi parce que le médecin est confronté à quelque chose qu'il n'y a pas de pilule pour guérir. Alors là, il faut que je fasse une thérapie peut-être, il faut que j'essaie de comprendre. Ça prend du temps, je n'ai pas le temps.
C'est complexe quand même.
Je ne sais pas comment faire. Alors, j'ai vu un médecin il y a quelques mois, qui est une connaissance de 30 ans, que je n'avais pas vu depuis beaucoup d'années, qui me dit « Ah, ben écoute, j'ai déjà essayé des médicaments, mon patient est mort, j'en donne plus. J'ai essayé de lui dire quoi faire, ils ne font pas, etc. »
Ils peuvent se sentir impuissants, quelque part.
Absolument, ouais. Ils font face à leur impuissance. Et ça, un médecin, il n'aime pas ça. alors, finalement, il recommande la chirurgie bariatrique si on a 50 livres de trop. Ça n'a pas de sens, tu sais, je veux dire. C'est pas la solution à tout parce que le taux de succès est en bas de 40 % des gens qui vont maintenir, puis bien, c'est pas certain en plus.
C'est pas évident.
Non.
Et dans votre livre, vous parlez des mammouths pour se traiter, en fait.
Ben, les mammouths...
On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, mais est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Oui, ben c'est l'influence du stress dans nos vies.
Ouais.
Et on a commencé à dire que l'alimentation et les sucres raffinés, c'est un problème majeur, mais associé à un deuxième phénomène qui est le stress. On est dans des sociétés où le stress chronique existe. Le stress aigu, c'est très bien, ça nous sauve la vie.
Tout à fait.
On a une voiture qui s'en vient,
ouais.
Mais ça nous sauve la vie.
Ouais.
On a tous nos mécanismes là, avec l'adrénaline, noradrénaline, le cortisol, qui fait qu'on survit. Merveilleux. On a besoin de ça. Mais le problème, c'est le stress chronique. C'est le stress qui dure jour après jour, après mois, après année. J'ai le goût de dire, une épidémie de burn-out. C'est même pas de la dépression. Il y a des symptômes. Ils souvent sont diagnostiqués comme dépressifs. Ils sont en burn-out, ils sont épuisés parce qu'ils ont fait face à des mammouths. Et puis des mammouths dans le sens qu'on a, on est menacé par quelque chose qui est souvent pas réel.
Mais voilà, tout part de la tête, hein.
Ben voilà. Alors, si c'est pas réel, tu sais, les mammouths n'existent plus. Mais on les ressent comme si on était attaqué et que notre existence...
Alors,
c'est l'angoisse existentielle et qui vient de la naissance. Je veux dire, on y répond selon notre environnement très tôt.
Oui.
Est-ce que l'attitude des obèses en face de la nourriture peut s'apparenter à un craving comme les addicts?
Absolument. Pour moi, c'est la même chose. Ils gèrent... Et souvent, les gens qui ont des addictions, vous remarquerez, ils n'ont pas qu'une. Ça peut être l'obésité. Ils vont fumer. Ils vont aller jouer. Ils ont souvent deux, trois, quatre addictions. Et ça... Plus qu'on a des addictions, ça veut dire que plus l'intensité des émotions est énorme. si on a de petites choses, ça veut dire qu'on a de petites émotions, ça, on les gère assez bien.
Ouais, mm-hmm.
Mais ça suit, c'est fou. Moi, j'ai noté ça, puis nos recherches le démontrent aussi. C'est que l'intensité, et on est dans une société d'hyper-performance. Je veux dire, c'est fou. Et je pense qu'on demande tellement, où les gens finissent par se demander tout le temps. C'est ça le stress chronique. Au fait, c'est les exigences qu'on s'impose.
Soi-même. Ouais,
même si des fois, c'est pas notre patron, mais tout d'un coup, je perds mon emploi, tout d'un coup, que j'ai pas les bons quotas. C'est fou. Il y a comme... La société encourage ça, à quelque part.
Malheureusement. Malheureusement.
Très, très, très malheureusement.
Écoute, merci beaucoup, Maurice. Merci, docteur Maurice Larocque.
C'était un plaisir, François.
Merci infiniment. Donc, je rappelle que votre livre, qui est très intéressant et qui est vraiment très nouveau dans cette manière de voir les choses, s'appelle « L'obésité n'est pas une maladie ». Et il est édité chez Un Monde Différent, trouvable dans toutes les bonnes librairies, comme on dit.
Merci beaucoup, docteur Larocque. Merci,
Camille.
Sourire, sourire, bien sûr, mais de rien. On a besoin de moi, j'accours. Des vases, des fleurs, joyeux les matins. Pour les autres, que du velours. Chaud et froid, non amour, je donne et tu prends. Les narcisses sucent l'eau limpide de l'étang. Mais tu pousses dans ma cour. Et l'air manque, il fait lourd. Ta femme, ton encre, je suis l'héroïne. Ça bascule tout doucement. Tes phrases et flèches qui m'assassinent. La violence à chaque tournant. Chaud et froid, non amour, je donne et tu prends. Les narcisses sucent l'eau limpide de l'étang. Mais tu pousses dans ma cour. Et l'air manque, que c'est lourd. Je plaide coupable de tous les maux. Tout est confus quand tu aboies. Bloqué sur des nids, je courbe le dos. Tout va bien, voilà. Chaud et froid, non amour, je donne et tu prends. Les narcisses sucent l'eau limpide de l'étang. Mais tu pousses dans ma cour. Et l'air manque au secours. Mais tu pousses, la 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 la, dans ma cour. Et l'air manque au secours. Un mot, un coup de trop comme un sursaut. Un éclair de lucidité. Ton vide va finir par avoir ma peau. Assez, assez, il faut bouger. Enfin moi, un beau jour, je prends mon élan. Les narcisses ont fleuri près de l'étang. Je cueille un bouquet court et je bois à l'amour. Et je cueille un bouquet court et je bois à l'amour. Je cueille. Je bois, je cueille, je bois, je cueille, je cueille un bouquet court.
Catherine Bourderon, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, Catherine Bourderon est notre recherchiste et aussi notre chroniqueuse à propos de livres. Et aujourd'hui, son coup de cœur, c'est Les Narcisses, ils ont pris le pouvoir, de Marie-France Irigoyenne, puisqu'on dit Irigoyenne, hein, édition La Découverte.
En effet, je me suis délectée. Marie-France Irigoyenne est psychanalyste et victimologue. Elle est notamment l'auteur du livre « Le harcèlement moral ». C'est sorti en 1998. Elle a fait connaître ce concept en France. Et elle publie aujourd'hui, ben, c'est sorti il y a peu de temps en France, en avril, « Les Narcisses ». Alors, selon elle, les narcisses sont désormais parvenus au sommet de l'échelle sociale. Son premier chapitre se nomme « Le narcissisme » de Donald Trump. Elle relate que le narcissisme en soi n'est pas une... il y en a plusieurs. Et elle dit que ces dernières années, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes au comportement très fort qui ont fait manchette et qui sont des narcissiques grandioses. Et ce qui est intéressant, c'est comme on a une espèce de modus... En fait, on a une table des matières, comment repérer un narcissique et voir si on est en interaction d'un narcissique. Alors, ils ont une intolérance à la frustration, ils ne supportent pas la critique, ils ont une haute estime de soi, ils se vantent sans cesse, ils se rehaussent aux dépens des autres, ils sont convaincus de leur supériorité, ils sont les plus beaux, ils sont les plus intelligents, les plus importants que celles ou ceux qui les entourent. Leur manque de modestie peut aller jusqu'à l'arrogance, comme Alain Delon, qui a dit sur les ondes de RTL en 2011 « Je suis un des rares mythes vivants du 21e siècle. » Et en parlant de ses passions...
Il n'a pas dit « Delon est d'ailleurs, un rare mythe ».
De toute façon, il est à Cannes. Je ne sais pas quand on va être reçu à Cannes en ce moment, mais bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les cliniciennes, comme je vous dis auparavant, donc elle reprend des cas de figure dans son livre. Nous pouvons lire donc à la page 95 au sujet d'une de ses patientes. « Même s'il est très endetté, elle affiche son argent et dépense de façon déraisonnable en faisant des cadeaux importants aux personnes à qui elle veut séduire. » Elle parle de ses projets, de créer une fondation, d'ouvrir une boutique, se vante d'avoir dîné avec un homme politique alors qu'elle était seulement dans le même restaurant que lui. Peu touchée par les soucis de ses proches, elle coupe la parole à une amie atteinte d'un cancer pour décrire avec une profusion de détails tous ses petits problèmes personnels. Elle parle aussi de Sarkozy. Alors là, j'ai bien ri. Alors, on apprenait autrefois aux jeunes qu'il était discourtois de commencer un courrier par « je ». Mais en novembre 2007, dans le magazine Du Monde, le linguiste Alain Rey constatait que le président Sarkozy, fraîchement élu, avait utilisé 126 fois le mot « je » dans son allocution de juin aux parlementaires et 135 fois dans son discours doux au MEDEF, assorti de 55 « je veux ». Alors, Alain Rey concluait qu'en disant que même le roi disait « nous voulons ». Qu'est-ce que vous en pensez, François, de tout ça?
C'est le résultat, on parle justement de Trump, c'est le résultat quand même d'une éducation permissive, de beaucoup d'argent qui coule à flot, de consommation facile, d'un accès sur les réseaux Internet où on peut se valoriser assez facilement et assez artificiellement. Et puis ensuite, c'est le principe de la culture de la célébrité instantanée.
Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est notre voisin, notre ami?
Bon, on lui dit bonjour et puis on s'éloigne.
Au revoir, Donald. OK, ben merci. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de recours. Elle le dit elle-même dans son livre. Alors, je rappelle le titre, Marie-France Irigoyenne, Les Narcisses, ils ont pris le pouvoir aux éditions La Découverte.
Merci, Catherine.
Merci beaucoup, Catherine.
Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. Alors François Baruel et moi-même, Camille Chai, sommes au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. Et juste avant d'aller à la rencontre de notre deuxième invité, nous vous présentons le coup de gueule de notre collaboratrice Myriam Daguzan-Bernier qui s'intitule « L'art fait du bien ».
À la fin de l'été dernier, à Chicoutimi et plus précisément au carrefour giratoire Talbot, était installé Polaris de l'artiste Étienne Boulanger. L'œuvre d'art public est une grande sculpture monumentale qui représente conceptuellement, entre autres, les œuvres de 5 grands peintres canadiens. Quand on s'informe un peu sur le processus créateur de l'artiste, on réalise à quel point il y a de la recherche et du travail derrière cette œuvre. Pourtant, les critiques n'ont pas tardé à émerger. Parmi les récriminations, l'artiste se serait « enrichi » sur le dos des contribuables, puisque l'œuvre a coûté 270 000 $. Étienne Boulanger a été obligé d'expliquer aux gens qu'il n'a reçu que 23 000 $ comme paiement pour son travail. Soulignons ici que selon l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, le revenu viable moyen pondéré s'élève à 26 574 $ au Québec. S'enrichir, vraiment? Imaginez les réactions quand le duo Cook-Sasseville a installé en 2011 une immense sculpture en forme de batteur à œufs intitulée « Mélanger le tout » devant le centre Jean-Claude Malépart à Montréal. Les réactions ont été vives et virulentes et plusieurs chroniqueurs de renom s'en sont donnés à cœur joie pour descendre la création, tout autant que les artistes qui l'ont fait. Et pourtant, c'est bien mal comprendre comment fonctionne l'art contemporain qui joue autant avec l'humour, la citation, l'ironie et qui souvent demande un peu de réflexion. Non, ce n'est pas toujours beau. Parce que l'art, c'est beaucoup plus qu'un élément seulement esthétique. C'est un questionnement sur ce qui nous entoure, sur notre société, sur qui nous sommes fondamentalement. Ça va beaucoup plus loin que la simple question « est-ce beau ou laid ?» En fait, rester seulement sur cette question, c'est rater la cible et passer à côté de la signification, souvent plus profonde, des œuvres d'art. Si on avait pris la peine de se questionner sur le fameux batteur à œufs, on aurait compris qu'il s'agissait d'une métaphore qui parle d'un quartier où la mixité culturelle est ultra importante et fait en sorte que ça crée un tissu social riche et complexe. Je suis tellement déçue et désolée que chaque fois qu'on parle d'art au Québec, et particulièrement d'art public, il y ait un tollé. Qu'y a-t-il de si choquant à encourager des artistes? Si les gens se sentent insultés en réalisant qu'on a dépensé des milliers de dollars pour une œuvre qui, par exemple, ressemble à un batteur à œufs, il me semble qu'il serait plus judicieux de tourner sa colère vers notre système d'éducation qui ne met pas assez en valeur les disciplines comme les arts visuels afin de permettre aux gens de saisir le message qui se trouve devant eux. Ça me semble beaucoup plus logique que de taper sur des artistes qui, avec leur salaire de misère et les heures passées sur des projets qui rapportent peu, ont bien d'autres choses à faire que de se moquer du public. Personnellement, j'estime que beaucoup de messages importants peuvent passer par l'art. C'est un excellent moyen de communication et un très bon outil de vulgarisation. Dans une autre vie, je donnais des visites guidées et créais des programmes éducatifs liés à des expositions. Il y avait parfois des œuvres très abstraites qui, oui, amenaient la confusion. Mais quand on prenait la peine de discuter, de les regarder avec un certain recul, qu'on laissait tomber ses a priori et ses préjugés, tout un monde s'ouvrait à nous. J'irai loin dans ma comparaison, mais voilà. Si on ne nous apprend pas à embrasser la différence et ce qui détonne, ce qui dérange, ce qui demande un temps d'adaptation ou un petit effort comme le fait l'art public qui met souvent en scène l'art contemporain, nous resterons des gens fermés et étroits d'esprit. L'art, c'est une ouverture sur l'autre et les différentes facettes de l'être humain. C'est une main tendue pour dire « viens, on va discuter ». L'art, ça fait du bien et c'est bon pour l'esprit. C'est un liant social, un point de rencontre. Particulièrement quand il s'agit d'œuvres installées dans la ville et qui ponctuent les parcours des passants qui entrent deux rendez-vous, en transition vers une autre activité ou à travers la folie qui nous pousse à toujours courir, nous permettent de nous arrêter quelques secondes pour dire « oh, mais qu'est-ce que c'est ?» L'art, ça émerveille, ça questionne, ça dérange. Ça nous rappelle qu'on est des êtres vivants, pensants, réfléchissants. L'art devrait être partout autour de nous. Parce que si notre regard finit par comprendre qu'il n'y a rien de choquant ou de dérangeant à voir des œuvres qui se distinguent par leur unicité, même si elles sont différentes et inhabituelles, ce même regard sera certainement plus ouvert à la différence et au final vers l'autre. Rien de moins.
Alors, c'est maintenant le temps d'accueillir notre deuxième invitée, Elsa Pépin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Elsa, vous êtes journaliste et auteure.
Oui.
Et vous avez dirigé le collectif Dans le ventre, qui regroupe 12 histoires de gestation et d'accouchement. Donc, on a ici l'histoire de 11 femmes et de un homme.
Ouais.
On va pouvoir en reparler tout à l'heure.
Mm-hmm.
Mais en fait, dans ce livre, vous trouvez qu'on diffuse et qu'on propage trop souvent peut-être un discours sur l'accouchement type, donc de ce que ça devrait être, alors qu'au final, chaque femme est unique et chaque histoire d'accouchement est unique.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le point de départ du projet. Mais il y a quelques points de départ, mais disons que j'ai été frappée quand moi, j'ai mon deuxième accouchement qui a été un peu traumatique. Je le racontais, puis du coup, je recueillais toutes les histoires des autres aussi, parce qu'évidemment, on se compare, puis je réalisais à quel point chaque femme a une histoire à elle si différente, même avec les mêmes conditions, c'est-à-dire que deux césariennes, ça peut se vivre très bien, mm-hmm. ou pas du tout. C'est pas la césarienne, le traumatisme, c'est ce qui se passe pour cette femme-là. Il y a plein de choses, il y a plein de facteurs. Est-ce que humainement elle est bien soutenue? Est-ce qu'elle avait des attentes? Moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment comme un sentiment d'échec parce que j'avais des attentes. Je voulais absolument accoucher par voie naturelle. Alors, c'est tout ça. Et je pense qu'on a besoin de revenir à la singularité des récits, des histoires, parce que ces histoires-là appartiennent aux femmes qui les vivent. Alors, oui, il y a des statistiques, et c'est important qu'elles existent, mais ça n'a rien à voir avec les histoires d'accouchement, et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là, c'est revenir dans la... Ouais, puis ces histoires intérieures et corporelles et physiques et très, très intimes, mais je pense que quand on va dans notre intimité, on est forcément ouvert à l'autre, puis c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre aussi à quel point ces naissances-là peuvent être... très belle, mais aussi très violente, très difficile.
C'est possible, les deux, hein?
Oui.
Autant d'un côté
c'est
que de l'autre.
C'est rarement juste la grâce d'accoucher. Pas... Même oui, si le bébé est beau, là, c'est pas ça.
Il y a plein de choses qui se passent avant, pendant et après.
Oui.
Puis même avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouve que c'est important de nommer les personnes qui ont accepté de livrer, de raconter leur histoire, donc, que vous avez toutes rejointes dans ce livre-là. Donc, je sais pas si je vais nommer tous les noms de la bonne façon, mais on a Melika Abdelmoumen, Anaïs Barbeau-Lavalette, Alexia Burger,
oui, Burger,
Maxime Catelier, l'homme parmi les 11 femmes, Martine Delvaux, Rebecca Desraspes, Julie Etu, Ariane Lassalle, Evelyne Marcille Deneau, Ariane Moffat, vous-même, Elsa Pépin et oui, Mélissa Véro.
Oui.
Comment vous avez choisi toutes ces personnes pour faire ce collectif?
Quand on construit un recueil comme ça, c'est un peu comme une courte pointe, c'est-à-dire qu'il y a un élément, puis ensuite un deuxième, un troisième, puis après, j'ai cherché l'équilibre. Oui, évidemment, je voulais des histoires d'accouchement différentes dans les faits, c'est-à-dire il y a une femme qui accouche de triplé, il y a une naissance grand prématurée, il y a un deuil périnatal, c'est important pour moi qu'il y ait aussi ça dans le livre parce que ça se peut. Oui. Puis il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, qui ont l'impression qu'on n'en parle jamais, que ça n'existe pas. Puis en plus, cette femme écrit divinement bien. Ce texte est magnifique. Oui. Donc césarienne. Alors évidemment, je suis allée chercher des femmes qui avaient des expériences différentes, mais c'était surtout pour moi des tonalités. C'est-à-dire, je voulais qu'on entende plusieurs manières de raconter aussi. Donc il y en a qui sont plus dans le registre humoristique. Il y a deux auteurs de théâtre qui sont plus dans le dialogue. Oui. Il y en a que c'est vraiment plus tragique. Mais donc je voulais aussi qu'il y ait ça, justement de montrer qu'il peut y avoir des accouchements qui ont l'air anodins. Puis finalement, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans ces événements-là.
Ouais. En ayant lu le livre, là, c'est vrai que c'est incroyable. Quand on le lit, on est... J'allais dire imbibé, je peux dire mais on est happé par toutes ces histoires-là.
Il y a vraiment un potentiel dramatique, on pourrait dire, à ces récits. Quand j'ai eu l'idée du livre, je me suis aussi dit, mais quelle belle matière littéraire, en fait.
Et voilà.
Moi, je m'intéresse beaucoup à l'écriture du corps. Je travaille là-dessus dans mon propre projet d'écriture en ce moment. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant de demander à ces femmes-là de revenir à cet événement qui se passe quand même en quelques heures. C'est très court, puis en même temps, ça change notre vie. Je veux dire, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Puis et qu'est-ce qu'on retient? Comment est-ce qu'on le raconte? Puis la façon de le raconter, pourquoi est-ce qu'il y a du noir ici? Pourquoi est-ce que c'est lumineux? Comment est-ce qu'on se le raconte? Puis c'est, comme en psychanalyse, c'est-à-dire le récit qu'on en fait devient notre histoire.
Oui.
Mais il n'y a pas vraiment une démarche thérapeutique là-dedans, mais il y a quelque chose par la littérature de transposer l'histoire de ce qu'on a vécu, que ce soit un traumatisme ou pas, qui donne un sens, un sens pour nous.
Oui. Ouais. Puis d'ailleurs, vous le dites donc dans le livre, c'est écrit « Raconter le commencement rejoint aussi la fin ».
Ben, oui.
Car pour naître, il faut mourir aussi un peu.
Ouais. C'est très beau, ça.
Oui.
Ben, moi, si je suis persuadée de ça. Oui. Mais en fait, on pourrait le transposer à tout dans la vie, c'est-à-dire si on veut naître, c'est-à-dire ou renaître ou faire un choix, forcément, il faut laisser derrière quelque chose. Il y a des pertes. Je pense que l'accouchement, il y a quelque chose d'extrêmement puissant parce qu'on est connecté, en tout cas moi j'ai eu l'impression d'être connecté à une énergie primitive, à des émotions primitives et à la mort. Dans mon texte j'en parle, c'est-à-dire qu'il y avait cette perspective parce que ça se passait pas bien, puis que mon enfant meurt ou que je meurs, puis... Mais aussi, c'est la contraction part de quelque chose.
Ça fait partie du possible.
Oui. Tout d'un coup, ça fait partie du possible, beaucoup plus concrètement.
Ça en donne des frissons. Hein.
Oui. Ouais. Puis après, mon ami donc, qui a perdu son enfant, mais je l'ai suivi pendant 2 ans après, puis c'est un immense deuil. Donc oui, là, le deuil est vraiment réellement lié à la naissance. Mais je pense aussi que c'est le début, c'est le bout, puis la fin. Donc forcément, la naissance, quand on donne naissance, on sait aussi qu'on va donner la mort, c'est-à-dire que cet enfant un jour va mourir.
Oui.
Alors c'est ça, ça commence, puis ça va se finir un jour. Donc oui, je pense que c'est lié. Intimement lié.
Oui. Et à travers tout ça, c'est important pour vous de justement un peu demander l'avis d'un homme, parce que la femme, c'est celle qui porte l'enfant, qui accouche, Mais quel est le rôle de l'homme à travers tout
oui,
ça?
Oui, je trouvais ça important. En fait. Ben, c'est ça, en fait. Donc, comme c'était une question, moi, ce que je l'aurais invité à faire, c'est raconter une histoire d'enfantement, de devenir parent, de gestation et d'accouchement. La plupart se sont vraiment concentrés sur l'accouchement, mais Maxime, lui, ben, c'est ça, je voulais avoir le regard d'un homme parce qu'évidemment, ils sont là, il oui. est là, on ne fait pas un enfant seul. Puis lui, c'est intéressant parce qu'il a vraiment choisi de raconter à quel point il se sentait justement accessoire, ou en tout cas impuissant, inutile pendant la grossesse de sa femme, et en même temps qu'il y a des immenses, tout d'un coup, prises de conscience, c'est-à-dire qu'il était dans un chalet en train d'écrire des poèmes, puis il a fait « Attends, mais là, ma femme va avoir un bébé, bon, je vais faire mon permis de conduire », tu sais, comme une espèce de prise de conscience de « Ok, c'est important, là, il se passe vraiment quelque chose ». Puis, mais aussi ce regard sur le bébé qui grandit, qui est un étranger pour le père, oui. jusqu'à ce que le bébé...
Parce que tant qu'il le voit pas,
non. Alors
il
que
pas
pour
concret.
Nous, c'est pas un étranger. C'est, dès le premier jour, il est là, puis on vit avec lui dans notre ventre. Donc, il y a vraiment deux temporalités à la parentalité. Le père, c'est le jour où l'enfant arrive. La mère, c'est 9 mois plus tôt.
Oui, on a François qui dit oui.
C'est parfaitement vrai. Ouais. C'est vrai qu'en fait, on ne se préoccupe pas de cette parentalité jusqu'au moment où il est là.
Ben oui.
Et quand il est là, ouais. boum, c'est le paquet qui nous tombe dessus tout et on coup. Se sent responsable brutalement.
Ouais.
Et en même temps fier. Mais c'est
oui,
vrai
puis
qu'on
ne
s'y attend pas.
Non, mais je pense qu'il y a des pères qui sont un peu soulagés de « Ah, enfin, je peux agir, je peux être utile, ouais. je peux changer une ouais. couche, je peux l'endormir.
Ouais. »
Ben,
c'est bon. Ça.
Ah, jusqu'à, parce que toute la grossesse, ils observent, ils s'occupent de la mère. Mais
leur rôle va prendre racine et forme très
oui,
bientôt.
Oui, mais ce qui est beau, c'est ce qu'il n'a pas raconté l'accouchement tel quel. Il a dit « Ça appartient à ma femme. »
Mais c'est beau.
Ouais.
Écoutez, je vous propose qu'on aille sur un petit clin d'œil de notre metteur en ondes. Donc, on va écouter une chanson d'Ariane Moffat et on en rediscute tout de suite après.
Thank you.
Non, alors, on discute toujours du livre « Dans le ventre, histoire d'accouchement » avec Elsa Pépin. Elsa, rentrons dans le vif du sujet.
D'accord.
On a en fait donc 12 personnes qui ont partagé leur histoire dans ce livre, mais parlons de la vôtre. Mm-hmm. Parce qu'en fait, je pense que pour vous, c'est important de parler d'un peu toutes les sphères qu'on peut retrouver à travers l'accouchement. Et vous, pour vous citer, ou en fait, on peut même dire qu'il y a des mots pour vous qui peuvent rimer avec « naissance » comme « trou noir » ou « abîme ».
Oui.
Pourquoi
oui,
pas?
Ben
mais
fait,
qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, ben en fait, moi, j'ai vraiment souffert parce que ça a été très, très long. Ensuite, j'ai eu une épidurale qui n'a pas été facile. Je ne sentais plus rien. Puis après ça, j'ai eu des tremblements, des gens... une espèce de crise de spasme qui me faisait souffrir. J'arrivais pas à respirer, j'étais pas bien, puis qui a duré peut-être pendant 3 heures. J'avais une infection, en tout cas, c'était vraiment compliqué. Puis quand ils m'ont dit, bon, on va faire une césarienne, là, pour moi, ça a été comme... c'est comme si toutes mes forces étaient tombées parce que je voulais vraiment pas une autre césarienne. Puis la césarienne s'est mal passée parce qu'il y avait des adhérences, parce que c'était une deuxième césarienne. C'était un AVAC raté. Alors, ça a pas super bien été. Mais la souffrance, elle était émotive et physique, c'est-à-dire elle était physique parce que j'avais un espace, mais je pense qu'émotivement, j'étais plus capable. Donc, j'avais l'impression qu'on jouait avec mon corps puis que j'étais plus là. J'avais l'impression que mon corps m'appartenait plus. Même avant, quand ils m'ont demandé de pousser, je sentais plus rien. Parce que c'était comme si j'étais spectatrice de mon accouchement. C'était très désagréable comme sensation.
Mais c'est quelque chose, ça.
Très désagréable.
Parce qu'il me semble que quand on accouche, s'il y a bien un moment dans lequel on veut être présente dans notre corps,
Mais c'est pour ça. Donc, je me sentais complètement dépossédée à côté de Puis donc j'avais l'impression que ça se jouait entre mon bébé et le corps médical. Mais moi, j'étais comme une espèce de passage, mais que
une
j'étais...
une tierce personne.
Oui, que j'étais pas... J'arrivais pas à me reconnecter. Puis en fait, je l'ai compris mieux quand mon fils est né, où là, ils ont finalement fini par le mettre sur moi, puis tout s'est calmé d'un coup. J'ai arrêté de trembler. Puis là, il y a eu un apaisement soudain. Je me suis dit, ben c'est ça, en fait. Là, tout d'un coup, là, il y avait un sens à ce qui se passait, puis c'était le contact humain. C'était, OK, voilà, voici pourquoi je suis là. Mon fils m'a calmé. Puis, donc, c'est une belle naissance
c'est
pour lui.
Bon. C'est votre fils qui vous a calmé, alors que d'habitude,
exactement,
c'est
exactement, exactement. Oui. Oui, oui. Il m'a fait voir toutes les couleurs en naissant, puis après ça, il m'a calmé.
Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on vit souvent ou qu'une femme peut vivre souvent de se sentir à l'extérieur de son corps? C'est quoi? Est-ce que c'est une façon de se protéger puis de ne plus ressentir cette douleur?
Non, mais je pense que j'ai beaucoup réagi à l'épidurale. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme une anesthésie qui a été très forte là, pour certaines femmes. Donc, c'est ça, elles ne sentent plus rien. C'est vraiment un effet de l'anesthésie. Puis après, ben, mentalement, on peut se mettre à comme juste focusser sur ça, mm-hmm. être obsédée. Puis je pense que ça aide pas. Je pense que si j'avais eu une doula ou vraiment un soutien plus moral, émotif près de moi, ça m'aurait sûrement aidé. Je pense que c'était surtout une détresse psychologique. Ouais.
Ça vous a manqué, ce soutien?
Oui. J'avais le soutien de mon amoureux, mais du père, mais c'était pas... C'est quelqu'un de, qui est capable d'avoir des mots qui sont appropriés, disons, pour la chose. Ouais. Mmh.
Je voulais vous poser une question qui n'a pas de grand rapport... Enfin, si, c'est en rapport avec l'accouchement, évidemment. Mais j'ai remarqué qu'en fait, pendant la grossesse, on est une princesse. Hein?
Avant?
Avant.
Bah oui. Ah, avant, oui.
Avant, la avant l'accouchement. Pendant, non.
Elle répond à la question, déjà.
Déjà. Donc, avant, on est une princesse, on est une personne qui va donner la vie. Donc, c'est quelque chose de très prometteur. On est en fait un projet. Mm-hmm. Une fois qu'on a accouché, d'abord, on est fatigué, et ensuite, on se retrouve déjà avec le bébé.
Ouais.
Et le bébé à sa charge. Donc, on change de statut, brutalement. Est-ce que vous avez ressenti ça?
Oui, mais c'est très concret aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a moins de liberté. On est comme, il y a comme vraiment un être qui nous, j'ai envie de dire, nous vampirise notre énergie.
C'est
mais,
ça.
C'est-à-dire, pour moi, les enfants, ça donne autant que ça prend. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est autant nourrissant que drainant. Mm. Puis ça, dès la première heure... Oui, ils sont là, on le sait. Mais oui, le statut, mais c'est une grande question, là. C'est le statut de qu'est-ce qu'être mère et femme.
Après avoir été justement adulée, choyée, comme...
Oui, mais ça, c'est dans le regard de l'autre, mais pour soi-même, c'est-à-dire...
Mais même pour soi-même, c'est ouais. J'imagine que c'est... Enfin, j'ai essayé de me mettre à la place d'une femme enceinte qui accouche. Et c'est vrai qu'après, on est là, on est pieds et poings liés, ou du moins, on est liés à l'enfant et on a cette responsabilité énorme.
Oui, mais c'est très difficile d'être la pourvoyeuse et en même temps, la femme, par exemple, désirante ou désirée. C'est, mais un jour, ça revient. mais oui, c'est sûr que c'est un grand paradoxe. Là. Puis en même temps, je pense que dans le monde dans lequel on vit, c'est important de justement d'être capable d'être une mère, puis en même temps d'être une femme souveraine, autonome, que c'est pas juste un esclavage, bien qu'il y a une forme de, on est obligé puis attaché avec ses enfants. Mais bon, il y a des choses très belles qui se passent. D'ailleurs, il y en a une qui le raconte. Et Ariane Moffat puis son amoureuse, elles ont allaité les deux. Elles ont eu des jumeaux à première grossesse. Puis elles ont allaité les deux. Il y en a une qui a pris des hormones. Donc là, tout d'un coup, il y a deux mères, on partage la tâche.
Elles se sont,
Oui, puis après, il y a des pères qui ont des bébés maintenant, puis il n'y a pas de mère. Alors, tu sais, je me dis,
ça évolue. Oui, ça évolue. Ouais. C'est incroyable parce qu'on a déjà plus de temps pour l'entrevue. On aurait tellement plein d'autres choses à dire. Mais j'ai envie de terminer en disant qu'ils sont chanceux, ces petits-enfants, qui vont pouvoir lire leur propre histoire écrite dans un livre. Ouais. Je le souhaite à plein d'autres. Et j'en profite pour donc rappeler le titre de votre livre qui est Dans le ventre, histoire d'accouchement, un collègue sous votre direction, donc sous la direction d'Elsa Pépin, des éditions XYZ de la collection Quai numéro 5. Merci beaucoup, Elsa.
Merci à vous.
Merci, Elsa. Camille, c'est le moment de ton billet.
Et oui, François.
Oui. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui de la situation qu'on rencontre tous un petit peu d'évitement parfois dans la rue. Et qu'est-ce que ça recouvre, ça?
Ben voilà, ben en fait, c'est une question que je me pose et j'ai envie d'ouvrir une discussion là-dessus parce que c'est une réflexion que je me suis souvent faite à chaque fois que je la vivais. Quand on se promène dans la rue et qu'on croise une personne sur notre chemin, sur le même trottoir, la plupart du temps, les gens ont tendance à faire quoi?
À s'éviter.
Et oui, à dévier le regard. Pardon, j'accroche le micro en même temps. Ça me fait réagir. Mais oui, on dévie le regard, on regarde par terre alors qu'il y a un être humain qui vient nous croiser, qui vient à notre rencontre le temps d'une fraction de seconde. Mais c'est pas grave. Je trouve que, en fait, ça me fait réagir parce que on a le droit chacun d'être dans notre bulle. On n'est pas obligé d'aller vers l'autre. Mais il y a quelque chose pour moi qui m'interpelle dans juste le fait de sourire ou de faire un hochement de tête à la personne, juste un bonjour. Connecté avec un autre être humain qui nous rencontre, qui nous frôle presque. Pourquoi, François, d'après toi, est-ce qu'on a tendance à éviter les gens?
Je te dirais que en fait, en France, ça se fait tout le temps à Paris. Ça, je peux le dire, c'est constant.
Okay.
Ici, beaucoup moins. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps avec les gens.
Ça, c'est une chose, je suis d'accord.
Ouais. Je crois que c'est principalement ça pour moi, en fait.
Mais donc, les gens se protègent, ils ont peur d'être envahis ou de devoir s'engager.
C'est ça.
En fait, parce que moi, je dis ça d'une façon candide, où je pense à une situation où il n'y a pas de danger, hein, où juste on se croise, on sait. Mais donc, je comprends bien que les gens ont peur de devoir se lancer dans une grande discussion. Ils ont peur peut-être d'être vus. Hein, des fois, on veut peut-être être discret, on n'a pas nécessairement envie. Mais je trouve que ça vient me chercher quelque part, moi, au fond de moi. Parce que je me dis, je pense à des animaux qui se rencontrent. Par exemple, deux chats, ils vont se croiser. Ben, ils vont aller à la rencontre pour savoir, ben, tu es qui, toi, ou juste bonjour, ou quoi que ce soit. Juste, je suis un peu dans la légèreté, je t'avoue, en ce moment, mais de saluer une simple personne qu'on rencontre, je trouve pas ça sorcier non plus.
Non, c'est particulièrement sain, voilà. Au moins, et ça prouve que les bulles dans lesquelles on est peuvent communiquer malgré tout.
Oui.
Elles ne sont pas complètement étanches.
Non, ben voilà, c'est ça. Et je t'avoue qu'en fait, moi, je le vis d'une façon différente, oui, de par ma différence. Je le rappelle pour les personnes qui nous écouteraient pour la première fois. Étant née sans bras ni jambes gauches, j'ai tendance, moi, à sourire aux gens parce que je me dis, ben, coudonc, je pense que sourire aux gens, quand on les croise, ben, c'est bon pour la santé.
Bien raison, tu as
mais
raison.
C'est quelque chose qui est propre à chacun, en tout cas. Donc, ben, écoute, François, c'est déjà ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Alors, de façon religieuse, je prends le temps encore une fois de remercier toutes les personnes qui travaillent pour l'émission et qui sont venues aujourd'hui. Donc, on parle de Dr Maurice Larocque, d'Elsa Pépin, d'Annick Filion, qui est notre vadrouilleuse, Myriam Daguzan-Bernier, notre collaboratrice, Catherine Bourderon, notre chroniqueuse et recherchiste, et Jean-Sébastien Laliberté, qui s'occupe de la mise en onde. Et sans t'oublier toi-même, François, mon cher co-animateur, merci d'être toujours à mes côtés.
Merci Camille, ça fait tellement plaisir, tu sais.
Et merci à vous d'avoir été des nôtres, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour
C'est bon pour la santé.